Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on vous présente un roman bouleversant. On part au Nigeria avec des femmes écrivains, en Afrique avec une ONG et en Syrie avec un monstre nazi enfin repéré. C'est un roman qui a bouleversé nos libraires. Une confidence intime qui raconte l'amour et le destin d'une vie. Philippe Besson publie son roman le plus personnel, Émotion en perspective. La revue 21 publie une enquête exclusive sur le monstre nazi Alois Brunner qui a pu jusqu'à sa mort contribuer au régime syrien protégé par la famille Assad. Autre sujet de la revue 21 que nous traiterons, le Nigeria avec des romancières qui publient sur des marchés des fables sentimentales. Et puis nous parlerons d'éthique, de commerce international et de politique avec le roman de l'auteure suisse Catherine Fuchs. Elle nous emmène en Afrique avec une ONG qui lutte contre la corruption entretenue par les entreprises occidentales.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex comme toujours à travers la francophonie. C'est le retour de Mathieu Colombe en France aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue à vous, vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Tout va bien dans le sud de la France ?
On se plaime pas.
On se plaime pas, tout va bien. Direction la Belgique, Annick Dor est avec nous cette semaine. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazerine. Bonjour Laura Sanchez.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous, vous représentez donc la Suisse, libraire à Genève, dans la librairie du Boulevard, vaste librairie de cette grande ville suisse. Et au Canada, on retrouve Jérémy Laniel, qui est libraire, lui, à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme, dans le froid canadien.
Ouais, non, c'est quand même très clément ce mois de janvier, disons-le.
Ah oui, d'accord. Bon, alors ça va. Ne vous plaignez pas après.
Hein. Jamais, jamais.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Catherine Fuchs.
Bonjour.
Vous êtes une auteure suisse. Votre roman La tête dans le sable attaque le pillage des ressources dans certains pays par de grandes entreprises au mépris des conséquences humaines, conséquences écologiques aussi. La Suisse ferme les yeux comme tous les pays occidentaux. On va vous découvrir tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Mais vous le savez, on commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Ça tombe sur vous. Vous êtes ravis, paraît-il. Donc, allons-y, que voulez-vous transmettre, Catherine ?
Eh bien, je ne sais pas si mon anecdote sera extrêmement spectaculaire, mais enfin voilà, ce que j'ai trouvé, c'est, en fait, il y a exactement 30 ans, j'avais pris un peu de temps pour voyager, je me suis retrouvée en Thaïlande, c'était pas encore la grande mode à l'époque, j'étais là chez une amie suisse, mais qui vivait avec un Thaïlandais à ce moment-là, qui tenait une espèce de bistrot sur une plage complètement idyllique, et un soir, j'étais là très tard, je ne sais plus, c'était un peu comme un rêve. Et je discutais avec un Américain qui était un peu plus âgé que moi et qui lui avait apparemment abandonné un travail, était en train d'abandonner un travail très lucratif, je sais plus, dans l'informatique, je crois. Et on avait une espèce de discussion complètement hors du temps où il m'avait dit justement, voilà, le plus important tout d'un coup, c'est vraiment de faire ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis cette phrase qui est complètement banale, effectivement, mais tout d'un coup là, dans ce moment-là, cette phrase a fait comme une espèce de chemin de hyper rapide. Et je me suis dit, voilà, il faut que je vais rentrer. J'avais un concert qui m'attendait aussi et je vais essayer, quoi qu'il arrive, de faire ce que je sens vraiment que je dois faire, c'est-à-dire écrire, faire de la musique, enfin rester
à
là au plus près.
Rester voilà. Sur l'instinct, c'est ça.
Exactement.
La rencontre qui génère l'instinct.
Exactement. Alors j'espère que j'ai passé l'examen. Que mon
vous avez passé
vous
l'examen. Merci Catherine Fuchs.
Je respire.
Et dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Philippe Besson.
Bonjour.
La tradition, vous le savez, dans cette émission, c'est de raconter une histoire personnelle. Comme on vient de l'entendre, il y a beaucoup d'anecdotes personnelles dans votre roman. Arrête avec tes mensonges, c'est le titre. C'est votre roman, je le disais, sans doute le plus personnel. Pour la première fois, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de dissimulation.
Oui, pour la première fois, je dis la vérité. J'en finis avec mes mensonges, puisque effectivement, ouais. C'était l'injonction que me faisait ma mère quand j'étais petit garçon, parce que j'inventais des vies comme ça, des gens à peine croisés, où je racontais que j'avais été emmené dans des voitures. Enfin, elle commençait un peu à s'inquiéter.
Ah oui,
donc,
quand même, ouais.
pour se libérer de son inquiétude, elle me disait arrête avec tes mensonges. Et moi, pendant longtemps, j'ai menti, puisque j'ai fait profession de romancier. J'adore ça, inventer des histoires. Sauf que là, le réel m'a rattrapé. Alors du coup, je raconte le réel. Oui.
Voilà. Alors c'est une histoire bouleversante, Philippe. Vraiment, le premier chapitre raconte une histoire. histoire d'amour au lycée entre garçons. C'est parfois assez cru, très descriptif sur le sentiment amoureux, la sexualité. Et puis, il y a deux autres chapitres qui suivent, qui justifient parfaitement le premier. De 1984, on arrive en 2007, puis en 2016. Et ce garçon, Thomas, finalement, il est en filigrane comme ça. Il vous a construit émotionnellement ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense que cette histoire vécue dans le plus jeune âge, à 17 ans, dans une petite ville de province, en Charente, où je suis né, c'est une histoire matricielle, c'est une histoire fondamentale, c'est une histoire décisive. C'est elle qui, effectivement, explique la suite. Ça, je le sais qu'après coup, mais sans doute, elle explique l'homme que je suis devenu, l'écrivain que je suis devenu. C'est-à-dire que si, au fond, je suis aussi obsédé, perturbé parfois par la brûlure amoureuse, par la rupture amoureuse, par le manque, par la disparition des gens qu'on aime, par aussi la difficulté d'être soi ou la nécessité d'être soi qui sont des thèmes qui traversent tout mon parcours littéraire depuis une quinzaine d'années. Je pense que ça prend sa source là, dans cette histoire, effectivement, vécue en 84.
On va donner la parole à une libraire qui vous a lu. C'est Laura Sanchez qui est en Suisse et qui veut justement donner son avis. Laura Sanchez.
Oui, bien, au-delà de la grande intimité que vous nous faites partager dans ce texte, moi, ce qui m'a plu, c'est le statut de ce récit. Ce roman, entre guillemets, semble très près de ce que vous avez vécu. Et puis, il y a cette scène finale qui, je pense, est centrale, non seulement dans ce livre, mais dans votre œuvre en général. Elle évoque un jeu entre réalité et fiction. Et puis, il y a ce personnage, Philippe Besson, qui jusqu'au bout laisse planer le doute et se joue encore et toujours de la question.
Il y a encore un doute ou pas ?
J'aime
là,
bien
sur ce livre, je sais pas.
Non, il n'y en a pas, mais j'aime bien laisser planer le doute. C'est-à-dire que ce qui est intéressant néanmoins, c'est d'expliquer que dans toute fiction, et j'en ai fait beaucoup avant, il y a une part irréductible de vérité intime. On ne peut pas écrire une fiction sans faire abstraction de ce qu'on est. Et dans toute confession, dans tout aveu, et ce livre est un aveu, il y a une part irréductible de fiction, ne serait-ce que parce qu'on fait objet littéraire. On essaye en tout cas. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une part, en plus d'une mémoire fantasmatique. Il y a la matière à brouiller ici ou là quelques pistes.
Vous expliquez en tout cas que vous avez très jeune la sensation d'être attiré par les garçons. À l'âge de 11 ans, c'est déjà une certitude chez vous, Philippe Besson. On vous traite alors de tapette dans la cour. Vous surmontez assez facilement cette violence, vous le dites d'ailleurs. Et puis, vous tombez finalement sur le garçon le plus improbable, celui qui attire toutes les filles. Lui-même est plutôt ambigu. Il ne saura pas choisir, lui.
Oui, c'est-à-dire que moi, quand je comprends mon orientation sexuelle, je ne suis pas catastrophé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai le sentiment qu'au fond, je vais porter une forme de singularité, de différence, même si je ne le formule pas comme ça à cet âge-là, évidemment. Mais je comprends que je ne vais pas être comme les autres et j'en suis pas, encore une fois, catastrophé. Je trouve ça plutôt sympathique.
Parce que vous êtes très bon élève, il faut le savoir. Ah, voilà. Vous êtes dans le rang déjà.
C'est ça, je suis très dans le rang, quand même. Absolument dans le rang, le côté binoclard en plus. Bon. Donc il y a l'idée que ça, au moins, ça porte en soi une singularité qui me plaît. Bon. Et puis, sans doute parce que j'appartiens à un milieu dont je soupçonne qu'il va pas me jeter des pierres, quoi. C'est ça le truc. Bon. Mais fondamentalement, en revanche, face à moi, j'ai ce garçon-là qui est une sorte de garçon ténébreux, sauvage, mutique. Vous savez, le genre de garçon qui a rien à faire, quoi. C'est une beauté qui est posée là. C'est terrible, les gens comme ça, d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de halo, d'aura autour d'eux et c'est merveilleux. Bon. Sauf qu'il est l'insoupçonnable. C'est-à-dire, je peux pas penser une seule seconde qu'il peut s'intéresser, un, au garçon et deux, à moi. Donc, ça fait quand même pas mal de... Sauf que non, il vient...
C'est improbable, c'est vrai.
C'est au-delà de ça.
Parce que c'est le rêve, vous l'observez, vous le voyez d'ailleurs.
Moi, je le regarde et j'ai
C'est le plus beau garçon de la cour,
oui,
quoi.
Oui, en tout cas, pour moi, oui, il l'est, c'est sûr. Ça, ouais. Et donc, moi, je me dis, quand il vient et qu'il fixe un rendez-vous, et évidemment, fixer ce rendez-vous, c'est dire qu'une histoire va commencer, c'est pour moi, c'est un émerveillement, un éblouissement. Mais en même temps, il va poser tout de suite une condition qui est celle du secret, de la clandestinité, parce que précisément, pour lui, les choses ne peuvent pas être dites.
On va écouter la BO du roman, Philippe Besson. On vous a demandé quelle est la musique qui illustre le mieux votre roman, la bande originale du livre, comme au cinéma, et vous avez choisi Jean-Jacques Goldman.
Je sens une stupéfaction dans le studio, c'est ça. Eh oui, je m'en doutais.
Vous le citez dans le livre, absolument. Tant d'autres, beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Il y a des
beaucoup
titres.
Beaucoup mieux. Attention, je sens une espèce
de. Il y a des titres
vachement
bien.
Je fais très attention.
Et c'est Veillez tard, ce titre Veillez tard.
Je peux expliquer peut-être.
Justement, on va écouter puis vous nous expliquez après.
D'accord.
Allons-y. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge. Ces étreintes qu'on rêve, on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines.
ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire. Ces regards insistants que l'on n'a pas compris.
Jean-Jacques Goldman, Veiller tard, le choix de Philippe Besson pour illustrer la BO de son roman. Pourquoi ce titre, Philippe ?
Bah, j'assume d'abord.
Heureusement, oui.
Et j'assume, parce qu'encore une fois, on est au milieu des années 80, on est en 1984. Celui qui incarne au fond la variété des années 80, c'est vraiment Jean-Jacques Goldman. Oui. Et moi, à cet âge-là, j'aime Goldman. Voilà, je le confie, on a le droit d'avoir des plaisirs coupables. Et donc, j'aime profondément ce qu'il fait. Donc, je suis fan. Il y a des posters et tout chez moi.
Ah oui.
Et en même temps, il y a une espèce de collision étrange qui se produit. C'est que cette première histoire d'amour, elle va se consommer aussi chez moi, dans cette chambre qui était ma chambre d'enfant et d'adolescent. Donc il y a une collision entre cet éveil amoureux, cet éveil à la sensualité, le fait que tout ça se passe sous les posters de Jean-Jacques Goldman. Et voilà. Mais je voulais aussi incarner l'époque. C'est-à-dire que c'est un roman qui dit quelque chose de ce qu'était cette époque, de
exactement,
ce qu'était le silence imposé aussi par cette époque. Et on est aussi à la veille de la grande décimation qui va arriver. Donc je voulais vraiment
avec
l'ancrer dans
le
ce sida, moment-là. Hein, absolument.
Comme vous évoquez aussi. Alors d'autres titres, hein, Nena, le groupe Nena, le groupe allemand que vous citez, Cyndi Lauper aussi, plein d'autres qu'on a adoré dans les années 80. Vous vivez une relation cachée, hein, donc la dernière année du lycée, il y a comme une urgence et Thomas vous dit une phrase qui va vous renverser. Quand vous lui demandez pourquoi moi, comme on l'expliquait tout à l'heure dans la cour, il vous dit parce que tu partiras et que nous resterons.
Bah, c'est la phrase essentielle, tout est là. C'est-à-dire, ce qui est fascinant, cette phrase, c'est d'abord la prémonition qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose que moi, je vois pas du tout. En plus, ce qui est évidemment troublant, c'est que la prémonition va se réaliser. Mais il y a dans cette phrase une forme d'infériorité ou de déterminisme social. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, il dit, toi, au fond, tu auras droit à l'émancipation, à l'affranchissement, à l'envol, tandis que moi, je suis condamné à la terre, aux racines, aux origines, à ce que l'histoire se perpétue là où elle a commencé.
Il est fils de fermier, censé reprendre.
Oui, et puis il devra continuer l'histoire, familial. Il sait, lui, que de toute façon, je finirai par partir. Donc, il peut décider de se lancer dans l'histoire parce qu'elle a une fin.
Vous avez 17 ans seulement à l'époque. Hein. Vous allez faire l'amour avec lui de nombreuses fois.
Oui.
Vous l'écrivez. Son corps vous fascine, son sexe particulièrement, son torse, hein, tout est dit. Vous êtes épanoui à ce moment-là, Philippe Besson. Vous êtes rassuré avec lui.
Oui, je suis rassuré. D'abord, il n'y avait pas de raison de cacher la dimension physique de cette relation, parce que c'est quand même pas colchique dans les prés, cette affaire. Donc, il y a effectivement un élan. Il y a un élan amoureux. Ouais. Moi, je suis un peu romantique, sentimental. Voilà. Lui, non. Mais il y a aussi évidemment une dimension très physique. Très sensuel, très sensoriel à cette histoire, comme souvent à 17 ans. En plus, plutôt réussi. Donc, c'est plutôt bien que le premier
c'est une bonne
amour
nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
Soit plutôt un amour réussi, oui.
Cette histoire va se terminer aussi vite qu'elle a commencé, presque. Hein, comme si tout était déjà prévu, comme si tout était planifié. Et vous décrivez très bien la morsure du sentiment amoureux. Il y a un passage très émouvant, bouleversant selon moi, hein, que vous écrivez, que je vais vous lire. Vous dites « Quand on a été mordu une fois, on a peur de recommencer. Plus tard, on redoute d'avoir mal. On évite la morsure pour éviter la souffrance. Pendant des années, ce principe me servira de viatique. Autant d'années perdues.
Ouais. »
Il vous est arrivé de rejeter l'amour pour éviter de souffrir ?
Bah oui, de nombreuses fois. À cause de ça en particulier.
À cause du traumatisme qui peut
c'est qu'il y a un moment,
en découler.
Vous découvrez l'abandon. Vous découvrez l'idée que vous pouvez être abandonné, que quelqu'un que vous avez aimé disparaît de votre univers mental, etc. Et donc, vous vous dites, je veux pas recommencer à vivre ça. C'est aussi simple. Donc, il y a une façon assez simple de pas le revivre, c'est de ne pas recommencer dans l'élan amoureux.
Ouais, c'est ça. Mais on peut être dans cette position de dire, si on aime quelqu'un, quel qu'il soit, on peut souffrir. Et si on veut éviter de souffrir, autant éviter d'aimer.
C'est ça.
Ça, c'est le piège.
Oui, c'est le piège, exactement. Je suis tombé dedans longtemps.
Il n'y a pas que vous. Trois autres libraires. On lit votre livre, Philippe Besson. Belgique, France ou Canada ? On commence par qui ? Philippe, c'est une question.
Ah, c'était moi la question. Partons au Canada. Tiens, allez, partons au Canada.
Canada, Jérémy Laniel.
Oui, que j'avais des craintes. Hein. Un auteur que j'aime bien, mais les derniers romans de Philippe Besson m'avaient laissé un peu froid. Et les livres autobiographiques peuvent m'ennuyer comme me fasciner. Mais il s'agit là vraiment d'un livre d'une grande beauté, d'une grande pudeur. Hein. Ça l'ouvre sur l'intime. Ça démontre avec finesse comment l'amour forge la vie. L'amour fou avec Philippe Besson cette fois-ci. Ce bouquin aurait pu être décevant, mais Besson a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et de ne laisser rien au hasard. Ça en fait vraiment un grand livre de cette rentrée.
Très bien. La Belgique, Annick Dore, êtes-vous d'accord ?
Complètement, oui, oui. Moi aussi, c'est vrai que ça faisait un petit temps que je m'étais plus plongée dans un de vos romans. Et j'ai vraiment été frappée par la justesse du ton, par cette précision descriptive des sentiments humains. C'est vraiment un condensé de sensibilité et de délicatesse. Et puis, ce qui m'a frappée et émue, c'est que vous laissez voir en filigrane à quel point cet autre garçon n'admet pas qui il est et comment finalement il choisit de vivre en se mentant à lui-même et en se condamnant à un reniement douloureux. Donc voilà, très beau.
Mathieu Colombe, il est dans les starting blocks. Alors, allons-y. Vous me faites peur, Mathieu.
Eh bien, en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris une claque. D'abord parce que vous avez su m'emporter dans cette histoire qui est quand même très intime. Ensuite, vous avez su me toucher en tant que lecteur. Et ça, c'est quand même assez fort. Et je ne sais pas si c'est dû au fait que je me ramollis avec l'âge ou bien si c'est dû à votre style, qui est quand même d'une précision quasi médicale, qui est très, très froid, mais qui permet de ressentir certaines choses vraiment puissamment et même de les comprendre. Enfin bon, vous l'aurez compris. Ce magnifique récit a réussi à me tirer des larmes et je pense que c'est quelque chose d'assez rare pour être souligné.
Incroyable.
Bon, ben merci, je reste sans voix. Merci à tous ceux qui ont parlé. Oui, c'est, je sais pas si c'est pas inquiétant, mais ça me fait très 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 plaisir. Enfin, là je fais mon malin, mais je suis extrêmement touché justement. Non mais c'est vrai que quand j'ai des commentaires comme cela, ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Donc j'exprime la gratitude qui est la mienne.
Il y a beaucoup de souvenirs dans ce roman, Philippe Besson. Tant de moments partagés, on s'aperçoit que quand on vit à deux, finalement, eh bien, tous les moments prennent un sens différent, notamment la culture, le cinéma, la musique, on en a parlé. Vous allez un jour voir Scarface de Brian De Palma, qui vient de sortir au cinéma. Et il y a Thomas, je vois. Je sais pas si on va y arriver. Hein.
Non, allez-y.
Je vous vois très ému, en fait, qui retient un passage, une réplique. On a resitué ce passage dans le film. Écoutez.
Non, mais vise un peu comme il est sapé. Y a pas assez la classe, le flouze, la pêche, quoi. Et ça, c'est la coque, mon vieux, quand je te dis que ça paie la drogue.
Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde.
J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde.
C'est sublime, quand même.
C'est ce qu'il vous dit, ouais. Il retient ça en sortant du ciné.
C'est sublime. Et en même temps, toute son histoire est dans cette réplique, peut-être. C'est-à-dire que lui est une sorte de diamant brut et il sera contraint de devenir une sorte de pierre, comme ça, fermée. Bon. Mais tout est là, son histoire est dans cette phrase, au fond.
Et en 2007, il va se passer quelque chose d'inattendu, comme ça, dans un hall d'hôtel, une rencontre complètement improbable.
À Bordeaux.
À Bordeaux. On le dit ou pas?
Quoi, ce qui se passe?
Oui.
On peut donner une piste, oui.
Une piste,
on peut dire qu'il y a une silhouette dans un hôtel, oui.
C'est ça. Et qui lui ressemble fortement.
Oui, et c'est assez curieux parce que je suis là, je fais autre chose dans cet hôtel et il y a un jeune homme qui sort et je le vois de dos. C'est-à-dire, c'est ça qui est, quand j'y repense, je me dis quand même que c'est une sorte d'hallucination. Moi qui suis pas très halluciné d'une manière générale, mais, et c'est vrai que je vois la silhouette de dos et je me dis c'est lui. Ce qui est techniquement impossible, parce que 20 et quelques années se sont écoulées, mais je me dis
ans,
c'est lui.
23
voilà.
ans, oui.
Et donc, j'abandonne ce que je suis en train de faire, je cours après la silhouette de dos. Et vraiment, quand je mets la main sur l'épaule, je suis sûr que c'est lui que je vais voir. Et il se retourne, le jeune homme qui s'en allait. Effectivement, c'est lui. Enfin, presque lui.
Voilà. On va rester là. Entre 1984 et 2007, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas eu de nouvelles. Comment avez-vous fait pour vivre sans lui, Philippe Besson?
Mais parce que on a cette grande capacité à continuer, c'est-à-dire à être emporté par les obligations, les accommodements, la vie normale. D'abord, j'ai accompli le destin d'enfant modèle qu'on attendait de moi, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire des grandes études, donc je les ai faites.
Et vous avez réussi à l'oublier?
On n'oublie jamais. Je pense les gens qui vous ont construit, qui vous ont forgé. Donc c'est un souvenir qui est resté vivace longtemps. Et surtout, tout le travail qu'on fait, c'est de faire que ça soit juste un souvenir heureux. C'est-à-dire la question, c'est de transformer une pensée douloureuse en une pensée douce. Vous savez, c'est comme ces boîtes à musique. Vous fermez la boîte à musique, puis de temps en temps vous la rouvrez, mais ça fait une jolie jolie musique avec une jeune fille qui danse. Et c'est ça, en fait, tout le travail, il était là.
Très bien. Merci beaucoup, Philippe Besson.
Merci.
Vous êtes très courageux.
Merci.
Vous êtes très courageux. Merci, Philippe. Votre roman récit Arrête avec tes mensonges est paru chez Julliard. Vous arrêtez les mensonges, du coup, maintenant. On n'attend que des romans autobiographiques de vous.
Vous croyez?
À suivre une histoire absolument incroyable et celle-ci vraiment effrayante. On va changer d'ambiance. La revue 21 a retracé le parcours du monstre nazi Alois Brunner, qui a aidé à monter le régime syrien, protégé jusqu'à sa mort, assez récente d'ailleurs, par la famille Assad. Et puis nous irons au Nigeria pour le son du monde avec des femmes romancières qui vendent leurs livres sur des marchés. Avant cela, voici une nouveauté musicale avec l'artiste belge d'origine congolaise, Balodji. On écoute Spoiler dans la librairie francophone. Tika va soucis, 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 Tika va soucis,
surprise en l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis. Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis quand on part sur un dance floor. Spoiler. Peine à jouir, passe droit pour ne rien dire. Blaser, blaser, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack, knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler!
Gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobinao. Na tiki basu si na ndako. Zela tongo etana pongo to sololao.
Danse comme on joue les coups. Les briquets font parler la poudre. Dans ce club, tel un thermos. On fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel. Compter 36 chandelles. Tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions rabais. Spoiler.
Tika va souci. Tika mon boulot. Tika va tout baisser. Tika mon boulot.
Spoiler.
Tika va souci. Tika mon boulot. Tika va souci.
Bouyabe, bouyabe. Bouyabe, bouyabe, bouyabe. Bouyabe, bouyabe. Bouyabe, bouyabe, bouyabe. Bouyabe.
Balogi avec Spoiler sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vont vous présenter leur coup de gueule ou leur coup de cœur. On commence avec vous, Mathieu Colombe. Coup de cœur ou coup de gueule?
Alors, ça va être un coup de gueule.
Étonnant.
Et pour une fois, en plus, c'est pas sur quelque chose de vraiment précis. En fait, c'est quelque chose qui s'est répandu de manière un petit peu insidieuse ces dernières années. Alors, on s'en est pas rendu compte, nous, les professionnels, parce qu'on lit beaucoup, beaucoup sur des services de presse, qui sont donc des ouvrages en cours de correction. Et un jour, avec mes collègues, on a fini par ouvrir des livres qu'on avait dans la librairie. On s'est rendu compte qu'en fait, globalement, il y avait pratiquement plus de correction entre un service de presse et un livre qui sort. Donc, en gros, toutes les coquilles qu'on peut trouver dedans, on les retrouve dans le bouquin final. Vous en êtes rendu compte.
Ah oui, il y a plein de coquilles. Oui,
vrai. Et c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, était complètement impensable, que j'ai beaucoup de mal à admettre maintenant. Il faudrait que ça s'arrête. Donc, il faudrait peut-être faire de nouveau des corrections, parce que peut-être que ça se fait plus, ou bien peut-être embaucher des gens qui ont fini leur primaire, je sais pas. Mais en tous les cas, faire en sorte qu'il y ait quand même beaucoup moins de coquilles dans ce qui sort actuellement.
Ça peut être un jeu aussi, c'est une façon de jouer avec l'orthographe. D'ailleurs, dans celui de Philippe Besson, il y a plein de coquilles.
Pour le coup, il n'y en a pas.
J'ai un correcteur très exigeant pour le coup.
Je confirme.
Alors, puisque vous êtes en France, Mathieu Colombe, juste un mot pour vous dire que nous serons la semaine prochaine au Festival International de la BD d'Angoulême, que vous connaissez bien. Enregistrement en public exceptionnel le vendredi aux alentours de 15h. Vous attend nombreux. Merci pour ce coup de gueule, Mathieu.
Avec plaisir.
Laura Sanchez est en Suisse et on va dans le rayon des livres pour la jeunesse avec vous, Laura.
Oui, un coup de cœur haut en couleur aujourd'hui, bien, avec le grand, le très grand Étienne de Lesser, qui nous raconte une intrigante histoire d'ours esselé, perché tout en haut d'un très vieil arbre. Grâce à une toque ornée de grelots, il va attirer tous les animaux alentour. Mais regardez-moi ce trait, ce mouvement dans l'image, ces couleurs si bien imprimées par les éditions Mémo. C'est fourru bourru d'Étienne de Lesser. Allez-y.
Aux éditions Mémo, bravo, merci Laura.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et sur cette ambiance de la ville de Damas, on part en Syrie. Bonjour Eddy Awidj.
Bonjour.
Bienvenue dans la librairie francophone. Vous avez mené une enquête édifiante autour d'Aloïs Brunner. La revue 21 publie en exclusivité ce reportage avec des témoignages inédits. Aloïs Brunner, ingénieur nazi de la solution finale, s'est réfugié après la guerre en Syrie. Il a contribué à la mise en place du régime syrien sous la protection de la famille Assad. Hafez el-Assad, puis Bachar el-Assad, vous révélez enfin la vérité sur cette histoire. On avait perdu sa trace ?
On avait perdu sa trace depuis 85. C'était la dernière fois qu'on a entendu parler d'Aloïs Brunner quand des deux journalistes allemands du journal Bunte le retrouvent en se faisant passer pour des sympathisants nazis. Et ils l'emmènent à la plage à l'attaquer et ils ont une petite, ils ont un appareil photo dans leur montre, oui, et ils le prennent en photo. Tout le monde savait qu'Aloïs Brunner était en Syrie. C'est pas quelque chose qu'on découvre. Sauf que là, on a des témoignages qui nous parlent de sa vie en Syrie.
Alors Serge Klarsfeld a tenté lui en vain de lui mettre la main dessus avec justement des indices d'une présence en Syrie, parce qu'il l'avait piégé un jour, il l'avait fait appeler par sa femme, il avait trouvé son numéro puisqu'il avait un prête-nom comme ça. Sa femme appelle Aloïs Brunner, tombe sur lui en Syrie et lui dit: je suis chargé de vous informer que si vous avez l'intention d'aller vous faire soigner en Suisse, eh bien vous courez un grand danger. Alors Aloïs Brunner comprend pas bien, mais en tout cas il prend justement cet avertissement au sérieux et il remercie la femme de Klarsfeld. Donc c'est à partir de là, évidemment, qu'on a su.
À partir de là. Et à partir de ce moment-là, Klarsfeld décide d'aller en Syrie. Klarsfeld, il est dans l'agitprope. Lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'on se demande. On se dit, bon, quand vous vous appelez Serge Klarsfeld, qu'est-ce que vous allez faire à Damas? Mais lui, il dit, le fait de se faire arrêter en Syrie pour aller chercher Aloïs Brunner, c'est déjà quelque chose en soi. Donc il y va. La première fois, il fait chou blanc. La seconde fois, il se fait expulser. Alors, il a normalement un rendez-vous, mais le rendez-vous vient jamais. En fait, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères. Le rendez-vous vient jamais. Et finalement, il va dans son hall d'hôtel et il dit, voilà, bonjour, je voudrais louer une salle pour une conférence. On lui dit, oui, bien sûr, monsieur, quelle salle? Pour quel est le thème de la conférence? Et là, il dit, eh bien, j'aimerais bien organiser une conférence sur les pays qui protègent les dignitaires nazis, le cas de l'Argentine et le cas de la Syrie. Alors là, évidemment, il se fait immédiatement arrêter et renvoyer à l'aéroport. Petit détail qu'il raconte dans ses mémoires, Aloïs Brunner va en Syrie quand même avec la carte de donneur de sang de Tsahal. Sa carte de donneur de sang de Tsahal.
Ah oui. Pourquoi Hafez el-Assad a-t-il recruté, protégé un proche d'Hitler? Comment ça se fait, ça?
En fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle la ligne des rats. C'est une filière d'exfiltration des nazis. Une partie vont partir en Argentine et l'autre partie va aller dans le monde arabe, d'abord en Égypte. Et les régimes arabes post-indépendance vont profiter de cette expertise nazie pour monter leur régime répressif, alors que ce soit policier, militaire et de torture. Alors donc vous en avez certains qui restent en Égypte. Aloïs Brunner est passé par l'Égypte et ensuite il se rend en Syrie. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été documentées, c'est des choses qu'on sait.
Oui, il se présente à la famille Assad en disant, j'étais un proche d'Hitler.
Voilà, il dit tout à fait, il dit j'étais un proche d'Hitler, j'étais dans le premier cercle et à partir de là commence une collaboration.
Quel est son rôle dans le régime syrien?
Alors c'est très difficile d'avoir les détails. Ce que nous disent les gardes, en tout cas les témoignages, c'est que Aloïs Brunner entraîne le premier cercle de la famille Assad, c'est-à-dire ceux qui ont amener Hafez al-Assad au pouvoir. C'est ça. Il n'entraîne que les chefs.
Donc il a un rôle prépondérant. On peut dire qu'il a mis en place le régime avec
la famille Assad. Il a aidé à mettre en place le régime. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a lui, mais il y a aussi d'autres aides d'extérieur. Mais en tout cas, lui fait partie des gens centraux. Oui.
Alors, pour la revue 21, vous avez réussi à faire témoigner des hommes qui ont été chargés de sa surveillance. Et selon eux, donc, il serait mort en 2001 à l'isolement dans une cellule, maltraité. C'est un moindre mal pour celui qui revendiquait avoir tué des milliers de juifs. 136 500, d'après vos chiffres.
56 000 juifs de Vienne, 43 000 de Salonique, 14 000 de Slovaquie et 23 500 juifs français. Ouais.
Et en 89, alors qu'Aloïs Brunner a 77 ans, on resserre son dispositif de protection. Il n'a plus le droit de sortir. Et vous dites qu'à force de rester enfermé,
il devient hystérique. Il insulte même Hafez al-Assad.
Alors, il insulte Hafez al-Assad, il insulte Bajad Souleyman, qui est un des chefs des services de renseignement. Et puis, alors, il attaque aussi ses gardes avec un couteau de cuisine. Mmh, alors, ouais. À chaque fois, les gardes le maîtrisent. Mais il est très énervé. Ouais.
Et c'est à partir de là que Brunner va à la fois être lâché par la famille Assad, mais qu'il va en même temps continuer à être protégé des pays qui réclament sa tête, parce que jusqu'au bout il est protégé. C'est ça qui est presque incompréhensible.
Alors, oui et non, parce que si vous voulez,
c'est la raison d'État.
Jusqu'au bout il est protégé. Le problème c'est que le régime syrien n'a jamais admis qu'il était là.
Voilà.
Donc après c'était compliqué de dire finalement en fait il était là et en fait on va vous le donner. Donc à partir de, ils sont restés toujours sur la même ligne. Ils ont toujours dit Alois Brunner connaît pas.
Alors que les présidents occidentaux demandent. Jacques Chirac en premier.
Jacques Chirac demande, mais il n'y a pas seulement Jacques Chirac. Tout le monde est au courant. Toutes les grandes puissances de l'après-guerre vont à un moment ou à un autre faire une demande sur Alois Brunner, que ce soit les Autrichiens, que ce soit les Français. Même les Américains vont éventuellement essayer de le faire. Enfin, tout le monde le sait qu'il est là. C'est ça.
Donc du coup, Damas continue à le protéger parce que, pour la raison d'État, on ne peut pas le laisser s'échapper comme ça. Donc on le maltraite. C'est ça qui est terrible, c'est que ça se retourne finalement contre lui. Il va vivre ces dernières années dans un état pitoyable. Les témoignages que vous avez recueillis disent même qu'à la fin de sa vie, il était traité moins bien qu'un animal.
Tout à fait. Alors, le régime syrien, c'est comme une mafia. Donc il n'y a que les mafias ou les régimes totalitaires qui mettent les gens au frigidaire. Alois Brunner, c'est ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il était quand même au plein centre de Damas, dans l'équivalent de Neuilly-sur-Seine ou du 16e arrondissement. Et puis, petit à petit, on se rend compte que, vers la fin, en tout cas, du régime de Hafez, on se rend compte qu'il commence à devenir un petit peu encombrant, il est un petit peu pénible. Donc, on ne le fait pas disparaître parce qu'on va peut-être s'en servir. Alors, on le met dans une cellule. Il faut savoir que cette cellule, il l'avait déjà visitée, parce qu'à chaque fois qu'il insulte Hafez al-Assad, ses geôliers font un rapport et on l'emmène en cellule.
C'est ça, ouais.
Et ensuite, on le ramène dans son appartement. Ouais.
Voilà, la fin tragique, mais finalement normale, je dirais, d'Alois Brunner.
La fin.
Et on sait enfin la vérité, c'est ça?
On sait la vérité. Mmh. C'est pas surprenant, c'est quelque chose qui ne surprend pas, en fait, de la part du régime, syrien. Et puis il y a peut-être quelque chose d'une espèce de justice un petit peu immanente.
Ouais. Merci beaucoup, Eddy Awidj. Votre enquête, en tout cas, est édifiante. C'est le sujet exclusif de la nouvelle édition de la revue 21 que vous pouvez retrouver en librairie. Autre sujet au sommaire de cette revue, beaucoup plus positif celui-ci, les femmes écrivaines au Nigeria, et c'est le son du monde de la semaine. Et bonjour Léna Mogé.
Bonjour.
Romance nigériane est un reportage photographique de la revue 21. À Kano, grande ville du nord Nigeria, des femmes se sont lancées dans la littérature romantique. Ce sont des romans d'amour, tout simples, écrits par des femmes au foyer généralement. Et ça dure depuis 1930. C'est pas nouveau ça, cette initiative?
Alors en fait, c'est né dans les années 80. Les romans en langue Hausa, qui est une langue parlée par 50 millions de personnes dans le Sahel, sont nés dans les années 30. Mais cette littérature amoureuse, romantique, est née dans les
années
80.
La nouvelle vague de cette littérature.
Voilà, ça s'appelle la Litatafan Soyaya. Et ce sont des femmes qui, en fait, ont trouvé, en écrivant des livres, un moyen de s'échapper.
Ouais.
Elles sont souvent assignées à résidence. Il faut savoir que donc à Kano, il y a la charia, donc une femme ne peut pas se déplacer seule dans la rue. Et c'est des romans qui parlent d'amour, qui parlent de polygamie, et qui ne sont pas forcément subversifs. Parce qu'il y a beaucoup de romans où les femmes expliquent comment être une bonne épouse. Alors que d'autres, au contraire, vont quand même essayer de
critiquer un petit peu le
critiquer, mais elles doivent passer par la police islamique, mais d'amener
Hisba,
les filles.
La Hizba, voilà, qui est la police morale islamique, qui au Nigeria censure ces livres-là.
Alors,
elles doivent déclarer, d'ailleurs.
Alors, elles doivent déclarer chaque livre à la Hizba, qui contrôle le contenu. Il y a des livres qui ont été brûlés. Mais quand même, malgré tout, dans certains romans, elles essayent de pousser les filles à l'éducation, de critiquer les mariages arrangés, les mariages des jeunes filles à 14 ans. Et c'est une manière aussi lucrative pour ces femmes de travailler. Parce qu'elles
peuvent gagner 300 $, c'est ça?
300 $. Il faut savoir qu'un banquier à Kano gagne à peu près 500 $, un policier 100 $.
Ah oui, effectivement.
Et c'est des livres qu'elles écrivent en un ou deux mois, qui sont ensuite tapés dans des imprimeries locales.
Oui, c'est très artisanal.
Reliés à la main et vendus sur les marchés, qui sont des marchés où Boko Haram commet aussi des attentats.
Il y a souvent un numéro de téléphone de l'auteur. à la fin de ce livre. C'est-à-dire qu'on va sur le marché, là on a retrouvé justement un son d'un marché au Nigeria. Et donc on achète ces livres sur le marché. Derrière, il y a le numéro de téléphone parce que les fans peuvent appeler l'auteur.
Alors en fait, elles ont plein de fans.
Ah ouais.
Et c'est souvent des femmes au foyer qui ont besoin de conseils. Alors je vous donne un exemple, c'est « Je suis la deuxième épouse, mais je suis très jalouse de la première épouse de mon mari, comment je peux faire ?» Elle leur donne des conseils. Il y en a une qui s'appelle Rabi, elle a 4 téléphones portables et elle passe son temps en fait à répondre à ses fans. Et ça crée une forme de lien et de solidarité. La photographe américaine qui a fait ces photos, Glenna Gordon, raconte quand même que elle, à Kano, elle pouvait pas se déplacer seule dans la rue. Elle est obligée d'être en voiture, dans un taxi. Et donc, pour ces femmes qui sont chacune chez elles, c'est une manière de créer du lien et d'exister
dans la société. C'est ce qui les rend populaires, ça, d'être vendues sur les marchés. C'est pour ça que ça marche.
Alors ça s'est développé comme ça. Ouais. Alors en général, les livres sont vendus à 3-4 000 exemplaires, mais il y a un des romans qui a été vendu à 200 000 exemplaires qui raconte une histoire d'amour impossible entre une femme riche et un jeune homme pauvre. Alors c'est vraiment des romans à l'eau de rose. Hein. C'est pas forcément des romans qu'on aimerait lire parce que c'est écrit très vite. C'est pas de la grande littérature, mais en tout cas,
ça fait lire. Ça c'est important parce que vous rappelez d'ailleurs dans le dossier du numéro 21 qui suit justement ce reportage photo, vous rappelez que l'alphabétisation baisse d'année en année. Il y a des chiffres d'ailleurs.
Des filles,
voilà, 72% d'alphabétisés en 91 et aujourd'hui dans certains États du Nord, ils ne dépassent pas 30% chez les hommes. Et 15% chez les femmes.
En 2000, la charia a été appliquée dans les 12 États du Nord. Et avec l'influence de Boko Haram, aujourd'hui, c'est vrai que les officiels en place ont tendance à laisser les filles à la maison.
On va se terminer sur cette musique du Nigeria. Merci beaucoup Léna Mogé. La revue 21, numéro 37, vient de paraître avec donc ces deux sujets que nous avons évoqués ensemble. Et nous donnerons à la fin de l'émission le numéro de téléphone de Philippe Besson, puisque comme les femmes nigérianes, il a lui aussi des contacts avec ses fans. Et voilà, on vous donnera ça tout à l'heure.
Bien sûr.
Merci la revue 21, très belle revue en tout cas. Merci à vous, à bientôt. En Belgique, on file dans le rayon des romans contemporains avec un coup de cœur, Annick Dor.
Oui, un gros, gros coup de cœur même pour un roman dense et passionnant. Alors, c'est une lecture, somme toute, un petit peu exigeante. Hein. Il y a un côté un peu fouillis. Il faut en tout cas du temps pour le lire. Hein. Ça fait quand même 700 pages. Mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, L'odeur de la forêt, hein, c'est son titre, nous retrace eh bien, le travail de recherche d'une historienne à propos d'un poilu pendant la Grande Guerre. Alors, on doit le roman à Hélène Gestern, qui a une plume magnifique. Hein. C'est précis, c'est ciselé, c'est envoûtant. Et je trouve qu'elle mériterait une reconnaissance en fait beaucoup plus importante, parce que j'ai un peu l'impression qu'on ne parle pas tant que ça de cette romancière pourtant hors pair.
Et c'est aux éditions Arléa, L'odeur de la forêt. Merci Annick. Jérémy Laniel au Canada. Un coup de gueule, Jérémy ?
Oui, un coup de gueule, Emmanuel, mais d'abord une question. Est-ce que tout le monde, après le temps des fêtes, se retrouve avec de l'embonpoint et frisant la névrose ?
Alors, pas
c'est la question
tout.
Que je me... Ah non, bon, bah, tant mieux pour les gens autour de la table, parce que j'ai l'impression, à voir ce que les éditeurs nous envoient...
Philippe Besson dit oui.
Ah bon, au moins un, non, voilà un justifiant le travail de ces éditeurs, qui nous envoient des livres à n'en plus finir. Les librairies croulent sous les bouquins de remise en forme, de régime minceur, de zen thérapie et de projet bonheur. Hein? Bien sûr, la nouvelle année a son lot de résolutions, que peu malheureusement garderont, on va quand même se le dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais a-t-on vraiment besoin de ce déluge? Pourquoi pas poser une résolution beaucoup plus simple et brillante, surtout, faites-vous le plaisir de fréquenter votre librairie, d'haranguer vos libraires, de ne pas avoir peur de demander conseil et de plonger à l'extérieur de votre zone de confort.
Eh oui.
Vous en porteriez beaucoup mieux sans les remords du mois de mars dû à l'échec de votre plan de gym.
Faites du sport et allez voir le libraire, ce sera déjà pas mal. Lisez 21 et tous les invités qui sont en plateau. Merci Jérémy. La librairie francophone avec la revue 21, Philippe Besson et Catherine Fuchs pour un roman militant. On part en Afrique avec vous, Catherine. Vous avez été activiste dans une ONG, vous ?
Non, pas du tout.
Non ?
Non.
Alors votre personnage, il est complètement inventé ?
Complètement inventé.
Eh ben, c'est réussi. On en parle dans un instant avec vous, Catherine Fuchs. Voici le tube francophone de la semaine en attendant, interprété par Catherine Ringer qui reprend un chanteur de légende. Je vous laisse deviner, Philippe Besson, vous jouez, vous serez interrogé après. Écoutez bien.
Si par hasard sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens pauvres, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon, hé, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent en fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
Catherine Ringer, qui reprend le titre de Philippe Besson.
Ben je donne ma langue au chat. Je suis
vous séchez complètement.
Oui, je sais pas. Je sais pas, non. Vraiment.
Titre de 1953, l'origine.
Quoi, Mouloudji
Brassens.
Brassens.
Le vent, complètement réorchestré, évidemment. Sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Catherine Fuchs est dans la librairie pour La tête dans le sable, paru chez Bernard Campiche. Catherine, votre personnage Carmen travaille dans une ONG. C'est une militante qui met en lumière les malversations financières et les dégâts écologiques de certains projets miniers en Afrique notamment. Rien de nouveau finalement, ça continue toujours et encore.
Absolument. C'est un problème fondamental qui ne va pas être réglé de sitôt, j'imagine. Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est d'une part de montrer un peu le rôle que joue la Suisse dans ces questions, parce qu'effectivement, la plupart de ces grosses compagnies sont carrément installées en Suisse pour plein de raisons. Et aussi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement la personnalité de quelqu'un qui s'engage, parce que on a tous comme ça des émotions suscitées par telle nouvelle ou telle situation, mais après ça retombe. Et ces gens-là, ils travaillent au quotidien, Et c'est quand même un peu David contre Goliath, et je suis assez impressionnée, j'avais envie de parler de ça en fait.
Et Carmen écrit un journal, c'est comme ça qu'on découvre son histoire, journal qui raconte à la fois les dérives capitalistes et en même temps sa vie amoureuse. Et là il y a un hic, Catherine, parce qu'elle va petit à petit s'amouracher de celui qui travaille pour l'ennemi, qui travaille pour la grosse entreprise qui extrait du minerai comme ça en Afrique, dans un pays qui n'est pas vraiment cité, un peu imaginaire, et alors se pose la question de choisir entre son devoir, son éthique, et ses sentiments.
Exactement.
Comment on fait ? On choisit quoi ?
En général, je sais pas. Elle hésite, elle se plante, elle sait pas. Enfin voilà, je voulais justement montrer, enfin corser un peu la chose et éviter de faire un roman, je sais pas si j'y réussis, mais trop didactique, qui explique le problème. Alors voilà, pour le corser un peu, j'ai mis des personnages. Et puis non, et puis il y a aussi le fait que moi-même, je suis des fois fascinée par les gens justement qui se posent aucune question, qui foncent, enfin qui font des choses sans s'inquiéter du tout des dégâts que ça peut causer. C'est quand même des gens assez fascinants malgré tout, même si ça peut être une fascination un peu sulfureuse, je veux dire, mais... quand on est au contraire traversé par des questions éthiques et puis etc. C'est vraiment l'opposé. Et ça m'intéressait de faire se rencontrer deux personnes comme ça.
Vous écrivez « Tous nous construisons nos vies sur une bonne dose d'oubli et de fuite répétée ». C'est très moralisateur comme récit, non ?
Ben évidemment que quelqu'un qui travaille dans ce domaine, il est un peu du côté de l'éthique et il peut pas s'empêcher d'être moralisateur d'une certaine manière.
Vous ?
Alors moi, peut-être que oui, disons que j'ai des principes que j'essaie de suivre plus ou moins tant bien que mal comme tout le monde, mais faire la morale, c'est effectivement mal vu, ça a une connotation très négative. En attendant, je pense que heureusement qu'il y a quand même des gens qui sont là pour montrer un pôle.
Il y a un libraire qui va intervenir. Tiens, ce n'est pas le plus facile. On va commencer par lui. Jérémy Laniel, au Canada.
Oui, quand on mêle un roman politique plutôt complexe à une histoire d'amour, quelques pièges nous guettent. L'excès de pédagogie, de didactisme, comme le disait l'auteur. La vulgarisation à outrance, l'enchevêtrement malhabile des deux histoires. Et ici, malheureusement, j'ai l'impression que l'auteur tombe dans les trois pièges. C'est un roman qui m'est complètement passé à côté aux grandes dames du lecteur que j'étais.
Alors, c'est vrai que c'est un roman engagé, Catherine Fuchs. Vous insistez sur certaines choses. Alors, vous prenez des risques aussi, hein, parce que vous dites beaucoup de choses, c'est très élaboré, très documenté d'ailleurs, un vrai travail qui a été réalisé autour de ce roman. Et vous n'hésitez pas à pointer du doigt la responsabilité de la Suisse, pays par lequel passe beaucoup de commerce international. Un morceau de sucre sur deux, vous dites, un litre de pétrole sur trois sont vendus depuis la Suisse. Que reprochez-vous à la politique économique helvétique, vous ?
Ces grandes compagnies devraient être beaucoup plus... c'est difficile évidemment à faire, mais il faudrait par exemple surveiller, faire pression pour qu'elles appliquent des codes d'ailleurs qu'elles ont mis en place, mais qu'elles n'appliquent pas, par exemple par rapport aux problèmes écologiques, aux problèmes économiques, etc., aux droits humains, enfin... Parce que les pays dans lesquels elles s'installent sont faibles en général, et évidemment elles en profitent. Donc le travail doit être fait évidemment aussi beaucoup en amont, c'est-à-dire dans les pays où elles ont leur siège. C'est ce que font ces ONG la plupart du temps.
Ouais. Voilà. C'est ce propos du livre, d'ailleurs. Deux autres libraires ont lu votre roman, Catherine Fuchs. Mathieu Colombe, en France. Qu'en dites-vous ?
Alors, moi, je trouvais qu'il y avait de très bonnes choses dans ce roman. Il y a un vrai travail d'enquête qui était intéressant. J'ai bien aimé justement ce côté écologie, les grandes puissances toutes puissantes, les grandes sociétés toutes puissantes, excusez-moi. Et tout ce côté militant était vraiment très intéressant. Après, le gros problème que j'ai eu, moi, je maille à partir avec l'écriture. Je trouvais que l'unité temporelle, en fait, l'écriture est un peu indolente. Donc, l'unité temporelle a tendance à un peu s'étirer. Et j'ai peur d'être passé justement à côté du côté plaisir. On se perd un peu, je trouve, dans l'écriture.
D'accord. Laura Sanchez en Suisse, vous n'êtes pas du tout d'accord ?
Bah moi, j'ai beaucoup aimé la thématique de ce livre. Hein. C'est vrai, j'en rejoins les autres pour ça. C'est intéressant. Genève, l'international et plaque tournante des grandes multinationales, mais aussi terreau d'ONG. Moi, habitante de Genève, je trouve que l'ambiance est très crédible et très réussie. Ma réserve, elle se place dans l'épaisseur psychologique des personnages. Par exemple, c'est vrai que cette histoire d'amour entre Carmen et cet homme qui incarne tout ce qu'elle rejette, c'était un peu périlleux. Et moi, j'ai trouvé ça finalement un peu caricatural.
Oui, c'est vrai que on s'y attend un petit peu, hein, Catherine Fuchs, parce qu'elle côtoie des hommes assez beaux qui travaillent dans ces entreprises, et puis elle tombe amoureuse. Bon,
voilà, c'était le projet aussi, parce que je vous dis, ça part aussi de... Je voulais pas ne faire qu'un livre qui dénonce, qui soit purement dans militantisme.
Oui, ça adoucit un peu l'histoire.
Donc, c'était essayer de concrétiser, enfin, de rendre aussi la problématique... Oui, c'est quand même des choix de vie qui sont assez fondamentaux. Puis je trouve intéressant de mettre ça à travers une histoire d'amour maintenant. Mmh.
Il y a le patron de cette compagnie minière qui dit une chose très intéressante. Vous écrivez donc du coup, les ONG sont des boîtes comme les autres. Elles doivent vivre. Il leur faut sans cesse dénicher des pseudo-affaires, des scandales pour justifier leur existence et l'argent qu'elles reçoivent. Peut-être que certaines font du bon boulot, mais celles dont je parle, les plus politisées en fait, elles nous empêchent de travailler en créant de la suspicion et de l'instabilité.
Tout à fait. Ben, les grandes compagnies, évidemment, ont développé une stratégie de communication impressionnante. On a presque l'impression que ce sont elles qui font le bien dans le monde. Enfin, donc, elles tentent avant tout de décrédibiliser les ONG. Mmh, c'est le meilleur moyen de travailler. Au
fond, oui, puis elles compensent toujours un peu. Avec, vous le racontez, ça, avec des grands
bien
projets
sûr.
Éducatifs, des grands projets de santé publique. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, des plans de développement durable que l'on élabore aussi. Il y a des chartes éthiques à la base.
Il y a beaucoup de poudre aux yeux, je crois.
Ouais,
et voilà. Et puis, en fait, certains des hôpitaux, par exemple, sont très chers. Alors, ils construisent des hôpitaux, mais ils ne sont pas accessibles à beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée que le libéralisme, à terme, apportera le bonheur à tous. Mmh. Mais qu'il faut passer par des... On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, etc., etc.
Et puis le plus gros scandale, là aussi vous le révélez, enfin vous le dénoncez, ce sont les impôts qui ne sont pas payés dans ces pays-là. Parce que si on payait les impôts, si les entreprises payaient les impôts à ces pays qui finalement fournissent la matière première, eh bien ils n'auraient pas besoin de l'aide internationale. C'est ça le plus gros scandale.
Exactement. Exactement, il n'y aurait pas besoin de faire la charité à ces pays, il suffirait de leur payer ce qu'on leur doit, mais en fait...
On paye à moindre frais, c'est ça le pire.
Exactement, et puis les stratégies d'optimisation fiscale, comme on dit, sont terribles, elles sont extrêmement complexes. Mmh. J'ai passé un moment là-dessus, d'ailleurs je n'entre pas dans les détails, parce que c'est horriblement fastidieux, mais enfin ça existe et c'est très facile, c'est assez facile à faire.
Et Jean Ziegler a souvent dénoncé dans ses rapports aux Nations Unies, dans ses livres
absolument.
Aussi.
Ouais.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Annick Dor est en Belgique. Et c'est à vous de conclure, Annick.
Oui, alors moi, je ne vais pas être aussi sévère que Jérémy Laniel, mais c'est vrai que je le rejoins en
c'est
partie.
C'est difficile.
Mais je vais faire ça gentiment. mais c'est vrai que pour moi, c'était une lecture un petit peu en demi-teinte. J'ai vraiment dû attendre le milieu du texte pour vraiment l'apprécier. Je dois dire, c'est vrai que dans la première partie du roman, l'impression que j'ai un peu eue, c'est que le côté engagé, vindicatif, ça alourdissait un peu le roman, même si le propos est tout à fait louable, on est bien d'accord. Alors heureusement, mais bon, c'est un roman, donc il fallait quand même respecter les codes du roman. Et c'est vrai que par la suite, j'ai trouvé que les choses s'équilibraient beaucoup mieux. Le romanesque, en fait, je trouve, gagne en puissance, vient enrober quelque part la thèse, et je trouve que ça donne une impression de plus grande fluidité. Donc j'avoue que j'ai davantage été sous le charme en fin de roman qu'au début. Voilà.
Voilà, vous partagez nos libraires, Catherine Fuchs, avec ce roman très militant, très engagé aussi. Merci beaucoup, Catherine. Merci d'avoir participé à la librairie francophone. La tête dans le sable est paru aux éditions Bernard Campiche. Très belle maison d'édition avec des livres toujours sublimes. Hein. L'objet livre, Mathieu Colombe, vous confirmez, l'objet est absolument magnifique. Merci, Catherine Fuchs. À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur une découverte francophone avec un extrait du premier album de Juliette Armanet.
Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seule dans ma veste. Ça dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Plus voir.
Juliette Armanet avec un extrait de L'amour en solitaire que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Catherine Fuchs. Merci Philippe Besson.
Merci.
Votre numéro 06-07-72. À la réalisation Serge Gandon avec Florent Beauvallet. À la rédaction Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikkels avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc à Angoulême au Festival International de la BD avec les auteurs qui font l'événement. Enregistrement exceptionnel à l'Espace Franquin vendredi à 15h. On vous attend nombreux. Merci pour votre fidélité. À bientôt.